chacun reçoit, et il y a une vie sociale intense, et cette circulation, c'est ce que j'appelle moi le grand générateur de l'univers, toute l'énergie vient de là, ce qui fait que les atomes tournent, que tout le reste fonctionne, et puis etc., et l'espace et le temps. Et puis nous, c'est cette circulation d'amour dans les personnes de la Trinité. Et donc lorsque Dieu crée les humains, comme l'aboutissement de ce qu'il a fait, hein, peu importe la façon dont il a fait, le temps que ça a pris, c'est pas le sujet. Il dit, il est pas bon que l'être humain reste seul. Hein. Pourquoi ? Ben parce que créé à l'image de Dieu, on a un besoin d'avoir des vis-à-vis. Et encore une fois, pas uniquement dans le mariage, même si ben, c'est la petite cellule de départ, oui, effectivement. Hein, c'est vrai aussi dans le mariage. Mais c'est vrai pour tous les humains. Il n'est pas bon que l'homme reste seul. Et en fait, on voit, c'est vrai pour tous les étages de notre vie, si je peux parler d'étages. Hein. Survivre matériellement, physiquement, tout seul, bah, ça serait compliqué. Hein. Si vous arrivez sur une île déserte, il vaut mieux être deux que tout seul, et trois, c'est mieux que deux, et etc. Parce que bah, ouais, ça sera plus facile. Hein. C'est pour ça que très rapidement, même dès les débuts de l'humanité, les hommes se sont regroupés, il y a les clans, il y a les tribus, parce que tout seul, chasser le mammouth, c'est compliqué, à deux, à dix, ça devient possible, et puis si on est beaucoup. Hein. Quand je vivais en Roumanie, j'ai appris par l'expérience que tout est possible, il suffit qu'il y ait suffisamment de monde pour le faire. Hein. Une fois, on avait un convoi qui est venu, et ils ont mis un bus sur le toit parce qu'il y avait du verglas. Puis moi, dans ma tête, j'attendais la dépanneuse. Mais il n'y avait pas de dépanneuse. Je parle, c'était en 91. C'était un 31 décembre, sur une route verglacée, au milieu de la nuit. Le policier qui est arrivé derrière, petit coup de sifflet, il a fait arrêter un bus de gens qui montaient faire la fête. Il a fait descendre 40 monsieur, tous en costard. 40 bonhommes, ils ont pris le bus, ils l'ont remis sur les roues. Il ne roulait toujours pas parce que lui, il était remonté, mais... Pour moi, il fallait une grue. Ben non, il faut juste suffisamment de gens. Hein. Donc, dans le monde physique, on a besoin de ne pas être seul. Dans le monde émotionnel et affectif, ben, c'est une évidence aussi. Hein. Ben, malheureusement, aussi à l'époque, au début, où on visitait les orphelinats en Roumanie, et puis c'était terrible de voir tous ces enfants qui pourtant étaient nourris, mais dont personne ne pouvait s'occuper émotionnellement, affectivement, qui étaient dans leur petit lit et puis qui se balançaient comme ça, ils n'avaient pas eu un vis-à-vis émotionnel pour prendre soin d'eux, etc. Et là, c'est un cas extrême, mais on sait qu'aujourd'hui, avec tous les moyens qui existent de communication, enfin, je ne sais pas si c'est des vrais moyens de communication, mais de faire semblant de communiquer, la solitude est une des choses qui frappe le plus durement nos civilisations, en tout cas occidentales. Et vous m'avez vu venir quand même, hein, je ne suis pas très fin, le troisième étage aussi. Dieu nous a conçus de telle façon qu'il n'est pas possible de vivre notre vie spirituelle tout seul. Alors, il ne faut pas tirer de ça la conclusion que la seule façon de vivre sa vie chrétienne, c'est de s'asseoir le dimanche matin dans un local avec un bonhomme qui parle et deux chants avant. Hein. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire, vous me connaissez assez pour ça. Quatre, pardon. Mais il y a une réalité... On ne peut pas vivre correctement. Et oui, bien sûr, les enfants, ils ne sont pas morts, mais ils ne vivaient pas. Et ça rejoint tout à fait ce que disait Virginia. C'est un sujet que je traîne avec moi aussi depuis très, très, très longtemps. Hein. J'avais une façon moins poétique de le dire qu'Oscar Wilde. Je disais, on peut vivre comme des concombres de mer. Ou alors, on peut vivre vraiment. Hein. C'est le concombre de mer, c'est total. C'est à la fois un mollusque et un légume. Hein. Donc il existe, mais voilà. Ou alors on peut vivre consciemment et apprécier les choses. Et d'ailleurs, les tentatives pour se sentir vivant sont étonnantes. Hein. J'ai appris une fois qu'une des raisons pour lesquelles il y avait beaucoup de Français qui pratiquaient des sports extrêmes, donc où ils risquaient leur vie et où certains mouraient, c'est parce que c'est les seuls moments où je me sens vivant. Quand je sais que je suis en danger de mort par mon activité. Quoi. J'ai trouvé d'autres façons de faire moins dangereuses, mais c'est intéressant aussi. Voilà, donc pour notre vie spirituelle, non plus, c'est pas bon d'être seul. Hein. Et j'espère que ce que je vais dire ce matin va pas effacer les 14 ans où je vous parle tout le temps, tout le temps, tout le temps de l'importance et de la priorité de développer une vie intérieure, intime, seule avec Dieu. Donc c'est pas le contraire, c'est un complément, enfin, c'est autre chose, c'est la deuxième jambe, on va dire, hein. Donc on n'oublie pas tout le reste, bien sûr, et c'est pas à la place d'eux, et il faut pas choisir entre les deux. Évidemment que si j'ai pas une vie intérieure, personnelle, intime avec Dieu, les autres pourront rien pour moi dans ce domaine-là, hein. Mais pour que cette vie intérieure prenne toute sa valeur, pour qu'elle soit pas juste une existence, mais une vie abondante, comme Jésus nous l'a promis, on a besoin de ne pas être seul. Et j'aimerais reprendre un petit texte de l'Ecclésiaste, qui est très connu, hein, Ecclésiaste 4,9, mais encore une fois, qui ne parle pas spécialement du mariage. Mieux vaut être à deux que tout seul. On tire alors un bon profit de son travail. Je vais m'arrêter cette première chose, on verra après l'autre point. Hein. Ben oui, lorsque deux personnes travaillent ensemble, ce n'est pas juste le travail de l'un plus le travail de l'autre. On peut faire beaucoup plus si on travaille bien. Dans un des romans que je lisais récemment, là, un truc d'Heroic Fantasy, comme j'aime, hein, il y a une espèce de héros, une espèce de grosse brute super costaud qui se bat avec une hache, puis qui est invincible, personne n'arrive à le gagner, et puis il lance un défi, ben, que tout le monde vienne essayer. Alors tu as tous les super épéistes qui arrivent, puis ils essaient d'aller contre lui, puis ils n'y arrivent pas. Et puis à un moment, il y a deux bonhommes qui sont absolument pas des combattants, qui sont pas doués, qui disent on peut essayer, mais on vient tous les deux. Puis il éclate de rire parce qu'il peut en manger quatre comme ça, quoi. Et puis en fait, le premier à son épée, il fait juste comme ça. Et l'autre, il vient et puis il se met à quatre pattes derrière. Et quand le monsieur recule un tout petit peu, il tombe. Et en fait, c'est les seuls qui arrivent à faire tomber ce grand guerrier. Et je trouvais ça intéressant par rapport au sujet de ce matin parce que ben, personne ne pouvait le vaincre. Mais ben, à deux, les plus mauvais de tous, hein, mais ils étaient ensemble et ils ont pu faire quelque chose. Et c'est pareil dans nos vies spirituelles. Il y a beaucoup d'autres textes dans la Bible. J'ai pris celui-là, on en lira un ou deux autres, mais lorsqu'il est parlé de l'amitié, c'est le même sujet, hein, parce que l'amitié, c'est des relations entre les gens. C'est être au moins deux ou trois. On n'a pas des milliers d'amis, mais le livre des Proverbes dit, c'est comme du fer qui affûte du fer. Mais on a besoin qu'il y ait quelque chose en face pour s'affûter. Si vous êtes toujours tout seul avec vous et vos pensées, même si moi je suis quelqu'un qui aime beaucoup lire, on apprend par les livres, on peut de nos jours écouter des choses sur Internet dans tous les sens, on peut réfléchir, méditer, c'est super, mais on a aussi besoin de gens qui soient en face et puis qui vous regardent dans les yeux et puis qui vous disent une petite phrase et puis là, ah ouais, j'avais jamais pensé à ça comme ça. Parce que ma façon à moi de penser, c'est la mienne, et je suis dedans, et je nage dedans, et je vais dans mon sens, et c'est bien, c'est intéressant, mais j'ai besoin d'avoir quelqu'un qui soit en face. Alors, le travail, on tire un meilleur profit. Ben oui, ce qu'on va faire, si on le fait à deux, c'est mieux que seul, et puis à trois, c'est mieux qu'à deux. Peut-être qu'il y a une limite après. Je ne sais pas jusqu'où ça va. Le texte continue et dit, si l'un tombe, l'autre le relève. Mais malheur à celui qui est seul et qui vient tomber sans avoir personne pour l'aider à se relever. Et ça, c'est quelque chose aussi qui est vraiment important. J'ai pu expérimenter souvent dans ma vie. Lorsqu'on a une difficulté sérieuse, ou moins sérieuse, ou lorsque quelqu'un a une difficulté, si des relations n'ont pas été tissées avant, c'est presque impossible d'aller l'aider. Et je pense qu'on peut tous mettre des histoires sur ce que je suis en train de dire. Lorsque j'ai eu des moments difficiles dans ma vie, mes amis, j'en ai quelques-uns, et je suis riche en amis, et je l'apprécie, c'est ma plus grande richesse, et j'en suis très reconnaissant. Mes amis ont pu être là pour m'aider, même si c'était me secouer, m'aider, hein, mais ils étaient là, mais un ami, ça ne se fabrique pas au moment où on tombe. Et il y a des choses qu'on ne peut pas entendre de la bouche de quelqu'un qu'on ne connaît pas bien, à qui on n'a pas confiance. Et c'est terrible, je connais quelques cas de gens qui sont dans de graves difficultés, ce n'est pas des amis à moi, mais quand ils sont venus me voir pour en parler, ils m'ont dit, le problème, c'est que j'ai confiance en personne. Et je ne sais pas avec qui. Puis maintenant, dans l'état où je suis, j'arriverai pas à faire confiance à quelqu'un et ils sont enfermés tout seuls dans leur détresse. Et c'est terrible de voir ça. Hein. C'est vraiment une des choses les plus dramatiques à observer. C'est une grande détresse. Mais si justement on a pris le temps de développer des relations vraies, pas être seul, hein, et encore une fois, on n'a pas des centaines d'amis, même pas des dizaines, mais quelques-uns au moins, alors ben, le jour où on sera dans la difficulté ou le jour où ils seront dans la difficulté, ça va être possible, on ne peut pas faire la part des autres, mais d'être là pour les aider à se relever quand même. Et c'est quelque chose qui est vraiment important. Et construire une relation, c'est quelque chose qui prend du temps et qui demande de la présence. Le temps et la présence, c'est deux choses pour lesquelles il n'y a pas d'équivalent, il n'y a pas de raccourci, il n'y a pas de substitut, il n'y a pas de, comment on appelle, de produit générique. Hein. On peut gagner du temps, entre guillemets, en utilisant certains outils, on peut économiser du temps. Voilà, je devais aller là-bas à pied, ben j'y vais en voiture, on dit j'ai gagné 20 minutes. Je ne sais pas si on les a gagnés ou si on les a perdus, mais voilà. Hein. Mais pour construire une relation, il n'y a pas de raccourci. Si on ne se voit pas, si on ne passe pas du temps ensemble, ça ne se fait pas. Hein. Et puis, c'est intéressant que Dieu ait voulu qu'il y ait quand même certaines choses où on est tous égaux. Je peux être très riche, je peux être pauvre, je peux être ici ou là, dans une culture ou dans une autre. Ben, passer du temps avec quelqu'un pour développer une relation, c'est la même chose partout. C'est passer du temps avec quelqu'un. Alors, vous allez me dire que quelqu'un qui travaille 15 heures par jour a moins de temps que celui qui en travaille 5. Hein. Mais, enfin, à l'époque où ces textes ont été écrits, l'esclavage existait et il y avait quand même des esclaves qui arrivaient à le faire. Et pas que ce soit bien, hein, mais lorsque les premières églises de croyants ont commencé, on sait qu'une grande proportion des croyants étaient eux aussi des esclaves qui travaillaient du lever au coucher du soleil. Et ils avaient le temps, ils trouvaient le temps, ils prenaient le temps de passer du temps ensemble. Et si on regarde ce qu'a fait Jésus dans la partie active qu'on appelle de son ministère, hein, c'est-à-dire les 3 ans où il a été impliqué pour implanter le royaume de Dieu sur terre. Alors bien sûr, on sait qu'il venait mourir et ressusciter pour régler les problèmes de justice et de connexion avec Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a fait pendant ces 3 ans-là ? Il n'a pas écrit de livre, il n'a pas fondé d'université, il n'a pas fondé d'association ou de mouvement. Il a passé du temps avec des gens, avec des tout petits groupes, avec des groupes plus grands, avec des très grands groupes, avec les foules, y compris, mais j'allais dire, avec les gens qui étaient contre lui, il a passé du temps, hein, à discuter, à les écouter, des fois à leur donner des coups de fouet aussi, rarement, mais c'est arrivé une fois ou deux. Hein. Voilà, c'est la seule chose qu'il a fait, et je pense qu'on devrait se souvenir de ça. On parle souvent d'imiter Jésus, et puis on essaie de sortir des tas de théories. Ben, ce que Jésus a fait, c'est passer du temps avec les gens. Mais dans des contextes, voilà, ils n'étaient pas dans une salle de classe, ils n'étaient pas enfermés quelque part. Ils marchaient, puis ils disaient aux gens, vous voulez marcher avec moi ? Allez, venez, on va là-bas. On revient, on va là. Hop, maintenant, on s'arrête. Oui, mais on t'appelle là-bas. Non, ce n'est pas le moment, on s'arrête. On va passer un moment ensemble. Et puis, lorsqu'il a envoyé ses disciples, au minimum 2 par 2, hein, jamais seul. Jamais seul. Donc, je mélange un peu tous les points, mais ce n'est pas grave parce qu'ils sont tous ensemble liés. Je continue mon texte. De même, si 2 personnes dorment ensemble, elles se tiennent chaud, mais comment celui qui est seul se réchauffera-t-il ? Alors, bien sûr, quand on dit ça, on pense de suite au mariage. Mais pas que. J'ai fait un voyage en Moldavie à l'époque où je vivais en Roumanie. C'était un voyage. Un jour, j'aimerais écrire un livre là-dessus parce que c'était assez exceptionnel. Dans le sud de la Moldavie, il y avait autant de décalage entre la Moldavie et la Roumanie qu'entre la France et la Roumanie, pour vous dire l'état de ce pays, quoi. Et on est arrivé dans une ferme. C'est une histoire, je ne raconterai pas, elle est très longue, mais des gens qu'on avait connus par un truc complètement abracadabrin. Et on arrive là, il faisait moins 30, pas d'électricité. Et ils avaient brûlé les derniers bois pour se chauffer. Puis il n'y avait pas de chauffage. Alors dans la maison, avec tout fermé, et on a dormi, on était 7, heureusement dans ce voyage, il n'y avait pas de femme, ça aurait été peut-être plus embêtant pour elle. On était 7 hommes et on nous avait donné une petite pièce. Et puis, bah, il fallait dormir là, sur des sortes de petits matelas par terre, quoi. Puis au début, bah, on s'est tous mis un petit peu. La pièce n'était pas grande, quoi. Hein. Mais je vous garantis, quand il fait moins 30 dehors et qu'il n'y a pas de chauffage dans la pièce, très très rapidement, on a compris une chose. Si on ne veut pas geler pendant la nuit, on a intérêt à se rapprocher. Hein. Et puis, bah, on a défait les sacs de couchage, on les a mis les uns avec les autres, on s'est tous empilés dessous, tous les trucs dessus, puis les uns contre les autres. Et moi qui n'ai jamais pu dormir avec quelqu'un d'autre dans un lit à part mon épouse parce que j'y arrive pas, ben, j'étais quand même content, hein, d'être au chaud. On a besoin de chaleur humaine. Et là, je parle maintenant dans un sens figuré, hein. On ne va pas tous se coucher ensemble, non, ne vous inquiétez pas, on ne devient pas une secte bizarre. Mais on a besoin de chaleur humaine et tous les likes du monde, toutes les vidéos, les photos, les exploits, les machins, les trucs sur un écran, ça tient pas chaud. Je crois qu'on l'attribue à Marilyn Monroe, je ne sais pas si c'est vrai, mais elle aurait dit, en tout cas la phrase est bien, une belle carrière, c'est beau, mais ça tient pas chaud le soir quand on s'endort toute seule dans son lit. Alors, attribuez-le à qui vous voulez, c'est pas grave, mais la réalité, elle est là, hein. On peut se construire une image virtuelle, avoir du succès, faire ci, faire ça, mais on a besoin de chaleur humaine. Et cette chaleur humaine, c'est pas une foule autour de nous qui peut nous la donner, parce que justement, c'est une des choses les plus étranges à la fois et les plus difficiles, c'est que le sentiment de solitude est jamais si lourd que quand on est avec beaucoup de monde, si on n'est pas connecté réellement aux gens. Et c'est pour ça qu'on revient toujours sur la question de Virginia, hein, gardez-la derrière, parce qu'après peut-être on pourra en parler. C'est que lorsque je me contente d'exister, je suis déconnecté de moi-même. Vous vous rappelez la citation de Christian Bobin que j'aime beaucoup? La plupart des gens perdent leur âme en venant dans ce monde comme on perd un livre dans un déménagement. Et si je ne suis plus connecté avec moi-même, je ne peux pas être connecté avec Dieu, mais je ne peux pas non plus être connecté avec les autres. Parce que je me contente d'exister, je travaille, je fais ce que j'ai mes activités, là je vais, peut-être je vais même à l'église, je lis ma Bible, mais je suis déconnecté de qui je suis. Et du coup, une vraie relation est impossible. Parce que c'est juste mon image de moi qui rencontre l'image de lui, de quelqu'un d'autre, et puis deux photos qui se rencontrent, ça ne tient pas chaud non plus. Hein. Donc si deux personnes dorment ensemble, elles se tiennent chaud, mais comment celui qui est seul se réchauffera-t-il? Un homme seul, je continue, un homme seul est facilement maîtrisé par un adversaire, mais à deux, ils pourront tenir tête à celui-ci. Alors, j'ai déjà illustré ça de plein de façons parce que tous ces sujets sont liés, mais dans le monde spirituel, il y a aussi des moments de lutte, de combat, hein, que ce soit contre nous, pas contre nous-mêmes, mais contre nos faiblesses ou nos difficultés, ou ces choses qui reviennent tout le temps, et puis on aimerait tellement que ce ne soit pas comme ça, mais c'est comme ça, contre l'adversité, et aussi tout simplement contre le monde spirituel, qui est une réalité. Il y a des combats qu'on ne peut pas mener tout seul. Certains, on doit les mener seul, oui. C'est une certitude. Mais une grande partie d'entre eux, on ne peut pas les mener seul. On a besoin d'être plusieurs. Et à deux, c'est plus facile, ou à trois. Hein. Et puis, la conclusion, c'est cette phrase qu'on cite aussi tout le temps dans les mariages, hein. Une corde à triple brin n'est pas vite rompue. Ou la corde à trois brins ne se casse pas facilement, dans d'autres traductions. Et c'est intéressant parce que si vous avez fait attention, dans ces trois versets, il est toujours parlé d'être deux, hein, il vaut mieux être deux que tout seul, deux. Et à la fin, ça dit la corde à trois brins. Et en fait, on peut faire le parallèle avec le texte de Matthieu 18, 19, où Jésus dit, je vous le dis encore, si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle le sera accordée par mon Père qui est dans les cieux, car là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Hein? Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'en tant qu'enfant de Dieu, quand on est deux, on est trois. On pourrait même aller quand on est deux, on est cinq, parce que le troisième, ils sont trois, mais là, ça devient trop compliqué. Hein. Et je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà expérimenté, j'espère que oui. Mais ça m'est arrivé plusieurs fois, pas des milliers de fois, mais plusieurs fois dans ma vie, de rencontrer quelqu'un que vous connaissez, selon l'expression, ni d'Ève ni d'Adam. Vous commencez de discuter. vous découvrez que c'est aussi un enfant de Dieu. Et au bout de quelques secondes, vous avez l'impression d'être aussi proche de cette personne qu'un de vos meilleurs amis. Puis vous dites, mais c'est possible, comment ? On ne se connaît pas. En plus, si on discutait en détail, j'imagine on n'a pas du tout les mêmes conceptions de vivre la vie chrétienne, ou les mêmes doctrines, ou les mêmes ci, les mêmes ça. Mais en quelques secondes, tout d'un coup, on a l'impression d'être avec notre meilleur ami. On connaît ce genre de relation. Hein, et c'est assez incroyable et c'est magnifique. Je pense à quelques moments précis où j'ai pu vivre ça. Même des fois avec des gens avec qui on parlait vaguement la même langue. Hein. Je me rappelle d'une rencontre avec un Italien dans un train, et puis il parlait italien et je comprenais à cause du roumain, et je parlais roumain et il comprenait à cause de l'italien. Mais on a passé 3 heures ensemble et j'ai souvenir comme les discussions avec un de mes meilleurs amis, justement parce qu'il y avait cette réalité dans ce moment-là. Je ne dis pas que si j'avais côtoyé cette personne parce qu'on serait devenu voisin, ça aurait été toujours comme ça. Hein. Mais dans ce moment-là, la réalité était forte. Il était connecté avec Christ, j'étais connecté avec Christ, on était ensemble, mais en fait, l'essentiel de notre relation passait plus juste comme ça, mais hop, c'était ponté par le haut. Hein. Et puis tout d'un coup, on était connecté et les mots, c'était... Vous imaginez un Français et un Italien qui parlent en roumain. Enfin, c'était un petit peu d'anglais des fois. Mais il y avait quelque chose, on savait qu'on... En fait, derrière les mots, il y avait une réalité partagée d'une présence commune entre nous, et puis c'était magnifique. Hein. Là où deux sont assemblés en mon nom, alors être assemblé au nom de Jésus, ça ne veut pas dire qu'on dit en ton nom à la fin de notre discussion, hein. C'est autour de la réalité de sa personne. Dans la Bible, le nom, ce n'est pas juste un nom, comme on peut appeler, c'est une table, c'est une chaise ou c'est un micro. Le nom, il veut dire quelque chose de la personne, il décrit ce qu'elle est, c'est pour ça que souvent il change de nom, on leur en donne un autre, etc. Le nom de Jésus-Christ, c'est de façon symbolique, c'est ce qu'il est, ce qu'il représente, ce qu'il pense, ce qu'il a fait, c'est tout ce qu'il est. Et lorsque deux personnes qui sont enfants de Dieu et qui sont connectées avec lui, puisque être un enfant de Dieu, c'est avoir Christ en nous, vont avoir aussi une relation horizontale. Alors il y a ce miracle qui se fait, qu'il y a à la fois cette relation horizontale, mais elle est aussi alimentée par ce trajet-là de vie, et ça crée quelque chose qui est magnifique, parce que on peut être en silence et on est bien, on peut dire 2-3 mots et c'est confortable, ou on peut parler plus, et puis il y a quelque chose de magique, hein, c'est juste naturellement... spirituellement naturel plutôt. Mais pour nous, c'est magique parce qu'on ne le vit pas tout le temps ou on ne le vit pas assez. Mais si je ne prends pas le temps de rencontrer les gens vraiment, en étant déjà moi-même rencontré avec moi-même et avec lui, ça ne va pas se passer. Et puis, le dernier texte que je voulais citer, vous le connaissez peut-être, il était déjà mal traduit et surtout très mal utilisé pendant longtemps. Hébreux 10, 25, les anciennes traductions disaient « N'abandonnez pas votre assemblée ». Du coup, c'est le verset qu'utilisaient les pasteurs pour empêcher les gens de changer d'aquarium. Attention, la Bible dit « N'abandonnez pas votre assemblée ». Et M. Darby, qui fait les traductions mot à mot, alors des fois, il fait des contresens, mais là, c'est intéressant. Mot à mot, ça dit « N'abandonnez pas le rassemblement de vous-même ». C'est pas pareil. C'est pas « N'abandonnez pas votre association, votre nom, votre église ». C'est, en fait, « N'arrêtez pas de vous rencontrer ». C'est ça que ça dit. Parce que sinon, on le sait, hein, on connaît tous cette image, vous prenez un beau tas de braise, là, et puis vous arrivez avec votre... vos châtaignes, si vous êtes vegan, ou votre quart de bœuf, si vous ne l'êtes pas, pour le faire griller dessus, et vous avez le gros truc rouge, là, bien, hein, puis vous prenez la plus belle des braises et vous la sortez du feu... Et puis elle est rouge vif, et puis elle est rose clair, hein, elle passe de communiste à socialiste, et puis elle devient noire, et puis c'est fini, elle est même plus chaude. Et pourtant, si vous reprenez le même, vous le remettez dedans, il faut très peu de temps de nouveau, elle rougeoie. Hein. Puis c'est étrange, parce qu'en fait, tous les morceaux de braise, si on les sort, ils s'éteignent, mais tous ensemble, ils restent brûlants. Hein. Y a un très beau roman comme ça d'Anna Cavalda, je crois que c'est La Consolante, C'est la vie de plein de gens qui ne tiennent pas sur leurs pieds, quoi. Une parce qu'elle est vieille et âgée, l'autre parce qu'il a des problèmes, il est agoraphobe, l'autre il a je sais plus quoi. Enfin, ça fait, hein, ils sont tous abîmés par la vie et puis ils ont un projet, ils squattent un vieil immeuble. Et tout d'un coup, tous ces gens abîmés arrivent à vivre ensemble et ça fait quelque chose de magnifique. Chacun d'entre eux est handicapé, tout seul, j'ai handicapé dans la vie, hein, pas juste physiquement. Et puis, ben, quand ils sont ensemble, ça fait un feu. Et je sais que le mot « église » est un mot qui a été abîmé. Les gens pensent aux bâtiments, à des cloches, à tout ce que vous voulez. Mais moi, j'ai découvert la foi en vivant l'église comme ça. L'église, c'était mes amis, les gens avec qui j'avais envie, quand j'avais un quart d'heure de libre, ce que je voulais, c'est être avec eux parce que ça faisait brûler cette braise en moi. Et j'aimais aussi la solitude, hein, et puis il en faut. Mais, et on a besoin de ça. Hein. N'abandonnons pas de nous rassembler. Alors comment, où, à quel rythme, de quelle façon, avec qui, tout est possible. La Bible dit rien là-dessus. À nous de trouver ce qui nous convient, à notre époque, dans notre culture, dans notre tempérament. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas enlever, n'arrêtons pas de nous rassembler. Parce que sinon, on va s'éteindre. Et puis après, ça devient difficile. Et après, c'est compliqué. Et après, je tombe. Et après, je suis seul. C'est pas un discours qui est « je vous fais peur parce que si vous arrêtez de vous rassembler, ça va être compliqué ». Non, c'est juste, ben voilà, c'est Dieu qui l'a voulu comme ça. Et puis surtout, moi, je sais que... Souvent, je dis, la raison première pour laquelle j'ai l'activité que j'ai, c'est pas comme métier, mais c'est quand même mon activité, c'est parce que sinon, je suis trop fainéant pour me bouger tout seul, pour étudier la Bible, la lire, prier. Alors là, je suis obligé de le faire, hein, et ça m'aide. Mais il y a une deuxième raison, et que je mets au même niveau, c'est que ben, vous voyez peut-être que le dimanche matin, de temps en temps, une fois le mercredi, mais moi, je vous rencontre tous les jours de la semaine. Il n'y a pratiquement pas une journée où je ne rencontre pas au moins un d'entre vous. Et ben, j'en ai besoin. Je suis un peu plus handicapé que vous. Hein, voilà. Alors j'ai aussi besoin de moments tout seul. Mais voilà, je veux juste nous encourager à ça. Nous rassembler autour de la personne du Christ. Parce que c'est ça, hein, autour de son nom. Et puis pour nous faire du bien ensemble et puis voir ce qu'il a prévu pour nous. Seigneur, merci parce que tu nous as créés à ton image et tu ne veux pas que nous soyons seuls. Alors apprends-nous comment le vivre. Donne-nous le goût. Certains n'ont pas encore découvert la joie, le plaisir, tout ce qu'il y a de stimulant dans rencontrer l'autre réellement, avec un vrai partage, un vrai échange. Alors aide-nous à le découvrir, que nous puissions goûter combien tu es bon aussi au travers de nos relations les uns avec les autres. Et puis que nos yeux s'ouvrent aussi sur ceux qui sont autour de nous et qui souffrent de solitude et qui ne savent pas comment en sortir. Et que sans intrusion, mais avec amour, nous puissions proposer, tendre la main et créer encore de nouvelles relations où tu vas venir être le troisième et puis t'ajouter et nous permettre de vivre des choses magnifiques avec toi.